Nous avons écouté, nous avons lu le texte. Maintenant, nous allons essayer de comprendre ce texte qui est long, dense, puissant. Vous le savez très bien, dans le parcours vers Pâques, avant les rameaux, chaque année, nous avons la joie d'accompagner des catéchumènes dont nous méditons des évangiles fondamentaux qui nous rappellent le sens de notre vie spirituelle. Ces trois évangiles sont trois rencontres. Jésus et la Samaritaine, une hérétique, une femme qui a soif. Jésus et l'aveugle-né, un homme qui ne voit pas, qui trouve la lumière. Ce dimanche, nous méditons Jésus rencontre un ami. Un ami qui est mort. Et Jésus va faire le signe le plus puissant, le plus extraordinaire qu'on trouve dans cet évangile. Il y a un crescendo dans le mouvement des signes. Des noces de Cana, chapitre 2, au dernier signe, la résurrection de Lazare, Jésus montre des signes, montre sa puissance, montre la gloire de Dieu. Dans ce texte, il y a un verset qui est crucial, le plus important, celui qui donne un sens à tout. C'est le verset 25. C'est le cœur de l'évangile que nous avons proclamé. Quand Jésus dit « Je suis, moi, la résurrection et la vie. » Vous le savez, souvent, dans l'évangile de Saint Jean, Jésus dira « Moi, je suis la porte, je suis le pain de la vie, je suis l'eau vive, je suis le bon pasteur. » Jésus est. Dans cet évangile, il dit qu'il est le maître de la vie. « Je suis la résurrection. » Et la vie. Dans ce texte que nous avons proclamé, Jésus affirme, s'identifie avec la puissance de la vie, avec la résurrection. Mais avant, il avait déjà parlé de la résurrection. Au chapitre 5, verset 21, il avait dit qu'il pouvait ressusciter les morts. Au chapitre 6, le long discours du pain de la vie, il dit qu'il est le pain de la vie et il promet de ressusciter au dernier jour et de donner la vie éternelle à ceux qui croient. Plus tard, au chapitre 14, il dira « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Ici, Jésus s'identifie à la résurrection et il parle de sa puissance vitale. Et la résurrection physique de son ami Lazare est le signe. Le septième signe qu'on trouve dans l'évangile de Saint Jean. Et vous le savez, à partir du dernier signe, la résurrection de Lazare, les Juifs décident la mort de Jésus. Donc, avec le chapitre 11, chapitre 12, il y a un passage, nous arrivons à la fin du livre des signes, la première partie de l'évangile de Saint Jean. À partir du chapitre 13, on médite et on accompagne Jésus quand il parle à ses proches, le testament de Jésus. Il n'est plus dans la vie publique. Alors, selon le texte, on peut le diviser, pour mieux le comprendre, en cinq parties. D'abord, du verset 1 au verset 6, il s'agit d'une introduction. On nous présente les personnages, les lieux, les circonstances. Une deuxième partie, du verset 7 au verset 16. Il s'agit d'un dialogue entre Jésus et ses disciples. Un dialogue complexe autour de la maladie et autour du danger d'aller vers Béthanie, vers la Judée. Troisième partie, du verset 17 au verset 27, c'est la rencontre avec une sœur de Lazare, Marthe. Du verset 28, quatrième partie, au verset 37, c'est la rencontre avec l'autre sœur, Marie. Et enfin, du verset 38 au verset 46, nous avons la résurrection de Lazare et les réactions au signe. On va prendre partie par partie. D'abord, l'introduction. On nous présente le personnage qui va nous accompagner tout le long de l'Évangile. Il s'agit d'un homme malade. Le premier verset nous présente un homme malade. Il s'agit de Lazare. Le nom est porteur de signification, il est dense. Lazare signifie « Dieu aide ». Cet homme habite avec ses sœurs à Béthanie. La maison de l'affliction, selon l'étymologie. Béthanie se trouve à environ 3 km de Jérusalem. Un homme, une situation physique de fragilité, la maladie, une famille, un lieu, un village. Au verset 2, on nous dit, on nous parle un peu plus d'une des sœurs, Marie. Celle qui, au chapitre 12, fait l'onction dite de Béthanie, avec un parfum précieux. Il met ce parfum sous le pied de Jésus. Donc, on peut imaginer que cette famille était une famille qui avait des moyens. Une famille bien, et elle avait les moyens. Et Jésus avait une certaine familiarité, amitié avec cette famille. Sans doute, il avait logé chez eux souvent. Ses sœurs envoient quelqu'un, dira Jésus, celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes. Il y a le disciple que Jésus aime. Il y a celui que tu aimes, donc son ami Lazare. Vous voyez que Jésus est présenté comme un être aimable, aimant. Il est habité par l'amour. Et certains ont fait l'expérience de l'amour de Jésus. Il est beau de voir ce lien particulier de Jésus avec certains, son côté humain. Après, comme nous l'avons écouté dimanche, nous l'avons écouté dans l'évangile de l'aveugle-né, Jésus dira, cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Dans l'évangile de l'aveugle-né, Jésus affirme d'une manière analogue qu'il y a certaines maladies qui ne sont pas pour la mort, mais pour dévoiler le mystère et le projet de Dieu sur une personne et sur l'humanité. On nous dit aussi que Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. Nous sommes toujours dans un mouvement d'amour. On le souligne clairement dans cette introduction. Donc, il s'agit d'une famille particulièrement amie de Jésus. Et encore, vous le savez, Saint Jean tient à souligner le côté humain, le côté incarné. L'amour de Jésus est vrai. C'est un homme, le Verbe s'est fait chair, et avec sa chair, son humanité, il aime vraiment. Il n'est pas impassible, insensible à la vie des hommes. Mais on nous dit aussi qu'on lui dit que Lazare était malade, mais malgré la maladie et la gravité du moment, Jésus reste encore 2 jours là où il était. Il ne se déplace pas, il ne court pas, il n'est pas pressé. Il attend pour manifester la gloire de Dieu. Rappelons-nous toujours dans l'évangile de Saint Jean l'importance de l'heure. L'heure, c'est le temps, c'est le moment où Dieu manifeste sa gloire. Donc Jésus ne se déplace pas tout de suite. Dans la deuxième partie, versets 7 à 16, il y a ce dialogue entre Jésus et ses disciples. Donc Jésus dit, retournons en Judée. Et là, les disciples sont troublés, perdus. Pourquoi ? Ils ont peur de perdre leur maître. Déjà, les Juifs avaient cherché à le lapider. Et Jésus veut retourner en Judée. Mais Jésus sait bien, et le prologue le dit très clairement, qu'il y a un combat, la lumière et les ténèbres. Jésus n'a pas peur du combat. Il sait qu'il a des ennemis. Mais il vit sa mission jusqu'au bout. Il parle ce langage mystérieux, la nuit, les ténèbres, la lumière. Il dit aussi, à un certain moment, que son ami Lazare, il dort, mais il va le réveiller. Vous vous rappelez dans le passage de la jeune fille, Talitha Koum, quand il dit, elle n'est pas morte, elle dort. Et on se moque de Jésus. Pour Lazare, il dit la même chose. Il dort, on va le réveiller. Il utilise ce langage, mais à la fin, il doit expliquer à ses disciples qu'ils ne comprenaient pas, parce qu'il dit, s'il dort, il sera guéri. Il leur dit au verset 14, Lazare est mort. Il doit l'annoncer clairement. Les disciples ne comprenaient pas. Mais si Jésus accepte cette mort, et il le dit au verset 15, c'est afin que vous croyiez. C'est le but de tout l'évangile de Saint Jean. Provoquer la foi. Aider à croire. Tous les signes, toutes les paroles, tout ce que Jésus fait, c'est afin que l'humanité puisse croire. Versets 17 à 27, troisième partie, c'est la rencontre avec Marthe. Alors Jésus arrive et Lazare était déjà dans le sépulcre depuis 4 jours. On le dit 2 fois, on le souligne, ce n'est pas par hasard. Là on nous dit depuis 4 jours il était dans le sépulcre, plus tard au verset 39, quand Jésus dit « Ouvrez la porte, ouvrez, enlevez la pierre », sa sœur va dire « Mais il sent déjà, il est là depuis 4 jours ». Pourquoi 4 jours ? Eh bien, il faut rentrer dans la logique et dans les pratiques funéraires de l'époque. Alors, vous le savez, dans la tradition d'Israël, on enterrait le défunt le jour même de la mort. Le jour même. Et dans la théologie sémite, dans la mentalité de l'époque, on croyait que l'esprit du défunt tourné autour du défunt pendant 3 jours. Et après, il abandonnait à la corruption. Il tournait. Donc, quand on dit 4 jours, ce qu'est la mort est irréversible. Il n'y a plus rien à faire. Et après, on sait que pendant 30 jours, on vit le deuil. Donc, depuis 4 jours, Lazare, est mort. Une mort irréversible. Alors nous trouvons Marthe et Marie, et surtout Marthe. Elle va à la rencontre de Jésus, et là nous pouvons penser aussi, évidemment, on l'a médité tellement de fois, au chapitre 10 de Saint-Luc, Marthe et Marie. Nous sommes un peu dans le même mouvement. Marthe se lève vite, elle va chercher Jésus, une femme d'action, de mouvement, dynamique, et Marie se tient assise à la maison. Marie, la réflexion, le calme. Marthe et Marie. Il y a ce dialogue entre Marthe et Jésus. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Donc au début, Marthe, on pourrait imaginer qu'elle attend un signe spectaculaire. Si tu avais été là. Mais au verset 24, il dit, oui, je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour. Donc, à la fin, il n'y a plus d'espérance. Espérance au début, et à la fin, une certaine passivité. Et c'est là que Jésus, face à Marthe, dira la parole puissante. « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Je suis la résurrection et la vie. Jésus touche à cette affirmation 3 sujets fondamentaux de la vie, de l'être humain. La foi, la vie et la mort. Celui qui croit en moi vivra. Au verset 25, il parle de la mort biologique et au verset 26, de la mort éternelle. Mais Jésus dit, celui qui croit en moi ne mourra pas. Il ne connaîtra pas la mort éternelle. Et Jésus finit, comme d'habitude, vous le savez, avec une question, une provocation pour Marthe. Crois-tu cela ? Il l'a fait avec la Samaritaine, il l'a fait avec l'aveugle aîné. Jésus pose la question de la foi. Crois-tu ? Rappelez-vous dimanche. Crois-tu au Fils de l'homme ? Tu le vois. Oui, je crois. Marthe fait une profession de foi. Oui, Seigneur, je crois. Cette profession de foi est proche de la profession de foi de Pierre dans l'évangile de Saint-Marc, Marc 8. Une profession de foi puissante. Elle est libre. Oui, Seigneur, je crois. Mais en disant je crois, elle donne 3 titres christologiques à Jésus. 3 titres importants. Je crois que tu es, premier titre, le Christ, c'est-à-dire loin, le Messie attendu. Deuxième titre, je crois que tu es le Fils des dieux. Ce titre vient plutôt de la tradition païenne, de la tradition helléniste. Et troisième titre, je crois que tu es celui qui doit venir dans le monde. Et là, nous avons un titre prophétique et eschatologique. Jésus, celui qui doit venir pour sauver. Donc le dialogue avec Marthe, après les doutes et les questions, se conclut avec une profession de foi puissante. Ensuite, quatrième partie, la rencontre avec Marie, versets 28 et 37. Là, il y a moins de dialogue et on laisse plus l'espace à l'émotion. Marie, elle aussi, elle va vers le sépulcre pour pleurer. On voit son humanité. Jésus la voit pleurer, au verset 33. Et on nous dit, toujours au verset 33, Jésus frémit en son esprit. Il s'agit d'une émotion. Dans le texte grec, c'est entre l'indignation et la colère. Et toujours dans le verset 33, on nous dit qu'il était ému, troublé, dans le texte grec, intérieurement. Donc on voit un Jésus qui est touché. Pour la majorité des exégètes, il s'agit d'une manifestation de l'humanité, de Jésus, de sa participation à la douleur des hommes. Jésus pleure. Jésus pleure. Encore Saint Jean tient à manifester un Jésus profondément humain. Il pleure. Il n'a pas honte de pleurer. Il y a un autre passage, et vous le savez, où Jésus pleure. Il n'y a pas beaucoup de passages où Jésus pleure. C'est quand il voit Jérusalem. Il voit la dureté de ses habitants. Là, Jésus pleure par compassion. Et nous avons deux réactions à la suite, versets 36 et 37. Certains ont une réaction positive, voyez comme il l'aimait, d'autres une réaction négative. Enfin, il a ouvert les yeux de l'aveugle, il pouvait faire un miracle au lieu de pleurer. Marie, Jésus, de l'émotion. Et enfin, cinquième partie, du verset 38 à la fin, nous avons le signe par excellence, la résurrection. On nous dit au verset 38 que Jésus maîtrise son émotion. Il retrouve sa force. Et il se rend vers le tombeau. Le tombeau, Saint Jean nous dit, c'était une grotte naturelle, avec une pierre placée devant. C'était la pratique habituelle de l'époque. Et là, Jésus dit, enlevez la pierre. Une parole étonnante. On va vers un lieu de mort. On sait qu'il y a un mort depuis 4 jours. Et il dit, enlevez la pierre. Et c'est là que Marthe, la pragmatique, elle intervient pour dire, mais enfin, il sent déjà. On ne peut pas. Il l'a depuis 4 jours. C'est là que Jésus revient sous la foi. Jésus fait un reproche à Marthe. Je te l'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est le but, voir la gloire de Dieu. Voir la gloire de Dieu pour croire à la gloire de Dieu. Alors, ceux qui sont là obéissent. Ils enlèvent la pierre. Et là, nous voyons les trois mouvements du signe que Jésus fait. D'abord, Saint Jean nous dit, Jésus lève les yeux vers le ciel. Quelque part, le regard de Jésus se tourne vers la source, d'où il vient le pouvoir et la vie, c'est le Père. Il y a toujours une communion entre le Père et le Fils, on l'a entendu dans l'évangile d'aujourd'hui. Il y a de l'amour et de l'action entre le Père et le Fils. Donc, il lève les yeux vers le ciel, vers le Père. On le trouve dans les évangiles, rappelez-vous, dans l'évangile de Matthieu, au moment de la multiplication des pains. Avant d'accomplir le signe, il lève les yeux vers le ciel, vers le Père. Donc, il y a un mouvement des yeux physique, et ensuite il y a la prière. Il se tourne vers le Père avec ses paroles: Père, je te rends grâce. Jésus ne demande pas d'abord la guérison, mais il rend grâce à son Père parce qu'il est fidèle, parce qu'ils sont en communion et parce qu'il sait qu'il doit faire un signe pour la foule qui l'entoure. Non pas pour Lazare ou pour lui, mais pour la foule, pour que la foule puisse croire, afin qu'il croie que tu m'as envoyé. C'est toujours, et on revient, et je le répète, et on le répète toujours, dans l'évangile de Saint Jean, le but c'est de susciter la foi. Donc le regard tourné vers le ciel, la prière, le lien entre Jésus et son Père, et le signe. Le signe se fait par une parole d'autorité. Jésus crie d'une voix forte. Lazare sort dehors. Une parole puissante d'autorité. Il l'appelle par son nom. D'abord, il y a un lien. L'autorité de Jésus est capable de donner la vie. Il lui dit « Sors dehors ». Un terme intéressant, profondément biblique. Sortie dehors. On pense évidemment à la sortie d'Égypte, la libération, l'appel vers la vie, la sortie de l'esclavage. On pense aussi aux esprits mauvais. Jésus dit « Sortez ». Et dans ce mouvement, dans cette parole puissante, il y a une libération de l'être intérieur. Et là, il y a un appel vers la vie. « Sors dehors. Sors de la mort. Sors vers la vie. » Un terme merveilleux pour notre méditation. Sortir. Sortir vers la vie. Il ne sort pas seul, mais il sort parce que Jésus l'a commandé. Verset 44, le mort sort, les pieds et les mains liés, le visage enveloppé d'un suaire. Saint Jean décrit clairement, avec beaucoup de précision, la réalité de la mort à l'époque de Jésus, pour bien montrer qu'il s'agit des morts physiques, qu'il était mort vraiment, qu'il ne s'agit pas d'une comédie. Donc cet homme sort lié, les mains et les pieds liés, le visage enveloppé. Et Jésus dit encore une parole d'autorité, non pas à Lazare, mais à ceux qui sont là. Déliez-le, laissez-le aller. Encore une parole de vie. la liberté. La vie l'emporte sur la mort. Déliez-le. Laissez-le libre. Quand Jésus rencontre beaucoup de personnages dans les évangiles, ils partent libres. Ils marchent. Rappelez-vous au chapitre 8, la femme adultère. Va, ne pêche plus. Un mouvement. Un mouvement des pieds. Déliez-le. Et qu'il marche tout seul. Qu'il vive de la mémoire de ce qu'il a vécu. Conclusion. Même s'il y a eu un signe puissant, une résurrection, le verset 45 nous dit, beaucoup de Juifs qui étaient venus entourer Marthe et Marie crurent en lui. Donc certains croient, d'autres allèrent trouver les pharisiens pour raconter ce que Jésus avait fait. Et les versets qui suivent, c'est la condamnation à mort, pratiquement. Alors après la méditation, je vous laisse quelques pistes pour le temps personnel, pour le silence, le moment le plus important. Et je voudrais centrer les pistes sur le dialogue entre Jésus et Marthe, la profession de foi. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu dois venir vers le monde. La foi. Ma profession de foi. Est-ce que j'arrive, moi aussi, dans la simplicité, à professer ma foi, non pas avec, simplement avec des paroles, mais aussi par la vie. Une autre piste, Jésus pleure. Nous sommes humains et nous avons une sensibilité, des limites physiques, psychologiques. Quand est-ce que je pleure? Pourquoi? Est lié au fait que Jésus pleure, il y a aussi le verset 38. C'est Jésus qui est capable de se maîtriser, de se reprendre de l'émotion. Émotion, raison, maîtrise de soi. Comment je vis les moments de douleur, de difficulté? Et enfin, troisième piste, centrée sur les paroles de Jésus à Lazare. Il s'adresse à un mort pour lui dire « vie ». Jésus s'adresse à chacun de nous. Peut-être nous disons « je suis fatigué, je n'en peux plus » ou « je suis mort » ou « ma foi est minuscule ». Nous pouvons dire ou analyser notre vie intérieure et ne pas être très optimiste. Eh bien, Jésus est là pour ça, pour nous dire « sors dehors ». Ce n'est pas Lazare qui sort tout seul, ni les autres, c'est la parole de Jésus, une parole de vie. Jésus est venu pour nous sortir de nos morts. Et enfin, nous avons besoin des autres. Parce que nous sommes peut-être liés, nous aussi. Les mains, les pieds, la tête, le cœur, je ne sais pas. Jésus dit à ceux qui sont là, des anonymes, déliez-le, laissez-le aller. il y a une médiation entre Jésus et Lazare. Des médiations. Des personnes qui nous redonnent la liberté. Des personnes qui nous aident à retrouver la liberté. Essayons de voir si dans notre vie aussi, nous pouvons nous appuyer sur des personnes qui nous aident à nous délier pour que nous soyons libres. Laissez-le aller. C'est la logique évangélique. Au lieu de prendre, de posséder, laissez-le aller. La liberté, la maturité. On n'est pas dans une logique de possession, mais de liberté, d'amour. Laissons l'Esprit Saint nous inspirer et nous guider.